Nick Dune. 8 jours après. Aussitôt que j'ai raccroché avec Tommy, j'ai appelé Hilary Handy. Si mon meurtre d'Amy était un mensonge et que le viol de Tommy O'Hara était un mensonge, pourquoi en serait-il allé autrement du harcèlement d'Hilary Handy? Une sociopathe doit se faire les dents quelque part, par exemple sur les austères couloirs de marbre de la Wickshire Academy. Quand elle a décroché, j'ai lâché d'une traite. « Ici Nick Dune, le mari d'Amy Elliott. J'ai vraiment besoin de vous parler. »«
Pourquoi ?»«
J'ai vraiment, vraiment besoin d'informations sur votre... »«
Ne dites pas amitié. »
J'ai entendu une grimace de colère dans sa voix. « Non, je ne me permettrai pas. Je veux simplement entendre votre version. Je n'appelle pas parce que je pense que vous avez quoi que ce soit à voir avec la situation actuelle de ma femme. Mais je voudrais vraiment entendre ce qui s'est passé. La vérité. Parce que... je crois que vous pourriez être en mesure de faire la lumière sur un comportement récurrent, Amy.
Quel genre de comportement?
Quand des choses terribles arrivent aux gens qui la dérangent. Elle a respiré lourdement dans le téléphone.
Il y a 2 jours, j'aurais refusé de vous parler. Mais l'autre jour, j'ai pris un verre avec des amis. La télé était allumée et vous êtes apparu. C'était au sujet de la grossesse d'Amy. Tous les gens avec qui j'étais étaient incroyablement en colère contre vous. Il vous détestait. Et je me suis dit, je sais ce que ça fait. Parce qu'elle n'est pas morte, si? Enfin, pour l'instant, elle est juste portée disparue. Pas de corps.
C'est exact.
Alors laissez-moi vous raconter. Amy. Et le lycée. Et ce qui s'est passé. Attendez.
En fond, j'entendais un dessin animé, des voix artificielles et une musique d'orgue à vapeur. Puis ça s'est soudain arrêté. Des voix pleurnichardes se sont élevées.
« Allez regarder en bas. En bas, s'il vous plaît. » Donc, l'année de seconde. J'étais la gamine de Memphis. Tous les autres étaient de la côte est. Je me sentais bizarre, différente, vous savez. Toutes les filles de Wickshire, on aurait dit qu'elles avaient été élevées ensemble. Leur façon de parler, leurs vêtements, leur coiffure. Je n'étais pas vraiment une paria pour autant, mais je n'avais pas très confiance en moi, c'est sûr. Amy était déjà la star. Genre, le premier jour, je me souviens, tout le monde la connaissait, tout le monde parlait d'elle. C'était l'épatante Amy. On avait tous lu ses livres quand on était petit. Et en plus, elle était sublime. Vraiment, elle était...
Oui, je sais.
Évidemment. Et bientôt, elle a montré de l'intérêt à mon égard, comme si elle me prenait sous son aile, un truc comme ça. Elle blaguait en disant qu'elle était l'épatante Amy, donc j'étais Suzy, son acolyte. Elle s'est mise à m'appeler Suzy, et très vite tout le monde l'a imitée. En soi, ça ne me dérangeait pas. Vous comprenez, j'étais à ses ordres. J'allais chercher un soda à Amy si elle avait soif. Je lançais une machine si elle avait besoin de dessous propres. Un instant, s'il vous plaît.
Mary Beth avait apporté tous les albums photos des Elliott avec elle, au cas où on aurait besoin d'autres images. Elle m'avait montré une photo d'Amy et Hilary, tout sourire, joue contre joue. Je pouvais donc m'imaginer Hilary maintenant. Les mêmes cheveux beurre frais que ma femme, encadrant un visage plus ordinaire, avec des yeux noisettes ternes.
« Jason, je suis au téléphone. Donne-leur juste un bâton de glace. C'est quand même pas compliqué. »« Désolé. Nos enfants n'ont pas école et mon mari ne s'occupe jamais d'eux. Alors il a l'air de ne pas du tout savoir quoi en faire pendant les 10 minutes que je passe au téléphone avec vous. Désolé. Donc j'étais la petite Suzy. » Tout marchait à merveille, et pendant quelques mois, août, septembre, octobre, ça a été génial. Une amitié intense. On était tout le temps fourrés ensemble. Puis, il s'est passé quelques trucs un peu bizarres en même temps, des trucs qui l'ont un peu dérangé, je le sais.
Quoi ?
Un mec de l'école de garçons. Il nous rencontre toutes les deux au bal de l'automne, et le lendemain, il m'appelle, moi, au lieu d'Amy. Je suis persuadé qu'il a fait ça parce que Amy était trop intimidante, mais peu importe. Et quelques jours plus tard, nos notes de mi-semestre tombent, et les miennes sont un peu meilleures, genre 19,5 contre 19,25. Peu après, une de nos amies m'invite à passer Thanksgiving dans sa famille. Moi, pas Amy. Une fois de plus, je suis persuadé que c'est parce que Amy intimidait les gens. Elle n'était pas facile à vivre. On sentait tout le temps qu'il fallait faire bonne impression devant elle. Mais bref, je sens les choses changer un peu. Je vois qu'elle est profondément agacée, même si elle ne l'admet pas. contre, elle commence à me faire faire des choses. Je ne m'en rends pas compte sur le coup, mais elle commence à me piéger. Elle me demande si elle peut me teindre les cheveux de la même couleur que les siens, parce que les miens sont ternes et ce serait tellement joli un temps plus clair. Et elle se met à se plaindre de ses parents. Enfin, elle s'est toujours plainte de ses parents, mais maintenant, elle se lâche vraiment sur eux. Ils ne l'aiment qu'en tant qu'idée, pas pour ce qu'elle est vraiment. Et elle dit qu'elle veut leur jouer un mauvais tour. Elle me demande d'appeler chez elle pour dire à ses parents que je suis la nouvelle épatante Amy. Certains week-ends, on prend le train pour New York et elle me demande de faire le pied de grue devant sa maison. Une fois, elle m'a poussé à aller trouver sa mère pour lui dire que j'allais me débarrasser d'Amy ou une connerie comme ça.
Et vous l'avez fait?
C'était des idioties d'adolescente. Avant l'époque des portables et du harcèlement sur le net. Une façon de passer le temps. On faisait ce genre de farce tout le temps. C'était juste des bêtises. C'était à celle qui serait la plus culottée et dingue.
Et ensuite?
Ensuite, elle commence à prendre ses distances. Elle devient froide. Et je crois qu'elle ne m'aime plus. Les filles de l'école se mettent à me regarder bizarrement. Je suis exclue du cercle. Bon, d'accord. Mais un jour, je suis convoquée chez la directrice. Amy a eu un terrible accident. Cheville foulée, bras cassés, côte fêlée. Elle est tombée dans un grand escalier et elle a dit que c'était moi qui l'avais poussée. 2 secondes. Retournez en bas maintenant. Allez, descendez, allez. Pardon, me voilà. Ne faites jamais d'enfants.
Alors, Amy a dit que vous l'aviez poussée?
Oui, parce que j'étais folle. J'étais obsédée par elle. Je voulais être Suzy. Puis ça ne m'avait plus suffi. Il avait fallu que je sois Amy. Et elle avait toutes les preuves qu'elle m'avait fait créer en plusieurs mois. Ses parents, bien sûr, m'avaient vu rôder autour de sa maison. En pratique, j'avais accosté sa mère. Mes cheveux étaient teints en blond. J'avais acheté des vêtements semblables à ceux d'Amy. Je les avais achetés avec elle, mais ça, je ne pouvais pas le prouver. Toutes ses copines sont intervenues pour expliquer qu'Amy était terrorisée par moi depuis plusieurs mois. Toutes ces conneries. J'avais l'air totalement cinglé. Complètement cinglé. Ses parents ont obtenu un ordre de restriction contre moi. Et je n'ai cessé de jurer que ce n'était pas moi. Mais j'étais déjà tellement malheureuse que je voulais quitter le lycée, de toute façon. Alors on n'a pas lutté contre l'expulsion. Je voulais m'éloigner d'elle à tout prix. Sérieusement, elle s'était fêlée volontairement les côtes, cette fille. J'avais peur. Une petite nana de 15 ans qui fait avaler un truc pareil. Elle a dupé ses amis, ses parents, les profs.
Et tout ça, c'était à cause d'un garçon, de quelques notes et d'une invitation pour Thanksgiving?
Environ un mois après m'être réinstallée à Memphis, j'ai reçu une lettre. Elle n'était pas signée, elle était tapée à la machine. Mais c'était Amy, de toute évidence. C'était une liste de tous mes manquements à son égard. Oublier de m'attendre après le cours d'anglais, 2 fois. Oublier que je suis allergique aux fraises, 2 fois.
Oh la vache!
Mais je pense que la vraie raison n'était même pas là-dedans.
C'était quoi la vraie raison?
J'ai le sentiment qu'Amy voulait que les gens croient qu'elle était vraiment parfaite. Et à mesure qu'on est devenus amis, j'ai appris à la connaître. Et elle n'était pas parfaite. Vous comprenez? Elle était brillante, elle était charmante et tout ça, mais elle était aussi très dominatrice, maniaque, hystérique et un peu menteuse. Ça ne me dérangeait pas d'ailleurs, mais elle si. Elle s'est débarrassée de moi parce que je savais qu'elle n'était pas parfaite. Et du coup, je me suis posé des questions sur vous.
Sur moi? Pourquoi?
Les amis connaissent la plupart des défauts de quelqu'un. Les époux voient les sales petits secrets jusqu'au dernier. Si elle a puni une amie de quelques mois en se jetant au bas d'une volée de marche, qu'est-ce qu'elle ferait à un homme qui aurait été assez bête pour l'épouser?
J'ai raccroché tandis qu'un des enfants d'Hillary décrochait le second téléphone et entonnait une comptine. J'ai immédiatement appelé Tanner pour lui rapporter mes conversations avec Hillary et Tommy.
Bon, on a 2 histoires qui corroborent votre version, c'est excellent.
A dit Tanner d'un ton qui me laissait entendre que ce n'était pas excellent.
Vous avez des nouvelles d'Andy?
Je n'en avais pas.
Il y a un de mes gars qui l'attend devant son immeuble.
A-t-il dit?
Discrètement.
Je ne saviez pas que vous aviez des gars sur place?
Ce qu'il nous faut vraiment, c'est trouver Amy.
A-t-il dit sans répondre.
Une fille comme ça, je ne la vois pas capable de rester en planque trop longtemps. Vous avez des idées?
Je ne cessais pas de l'imaginer sur le balcon d'un hôtel chic, près de l'océan, enveloppé dans un peignoir blanc épais comme un tapis, sirotant un très bon Montrachet en épiant ma chute sur Internet, le câble, dans les journaux à scandale. Profiter pleinement de la couverture médiatique incessante, de l'exultation d'Amy Elliott Dune. Assister à son propre enterrement. Je me demandais si elle était assez lucide pour s'apercevoir qu'elle avait volé une page de Mark Twain. Je la vois bien près de l'océan, j'ai dit. Puis je me suis interrompu, me donnant l'impression d'une voyante de bas étage. Non, je ne sais pas du tout. Elle pourrait littéralement être n'importe où. Je ne crois pas qu'on la reverra. À moins qu'elle décide de revenir.
Ça semble peu probable,
a soupiré Tanner, agacé.
Alors essayons de trouver Andy pour voir ce qu'elle a derrière la tête. Notre marge de manœuvre se réduit de jour en jour, là.
Puis l'heure du dîner est arrivée. Le soleil s'est couché et je me suis retrouvé seul dans ma maison hantée. Je réfléchissais à tous les mensonges d'Amy et me demandais si la grossesse en faisait partie. Nous avions couché ensemble assez sporadiquement pour que ce soit possible. Mais bon, elle savait que je ferais le calcul. Vérité ou mensonge? Si c'était un mensonge, il était destiné à m'anéantir. J'avais toujours pensé que nous aurions des enfants, Amy et moi. C'était une des raisons qui m'avait poussé à l'épouser. Je nous voyais avoir des enfants ensemble. Je me souviens de la première fois que j'ai imaginé ça, pas 2 mois après qu'on avait commencé à se fréquenter. Je sortais de mon appartement de Keeps Bay pour aller dans un square que j'aimais bien, le long de l'East River. Et sur le chemin, je suis passé devant l'immense bloc en forme de Lego du siège de l'ONU. Les drapeaux d'innombrables pays flottaient dans le vent. Ça serait super pour un gamin, j'ai pensé. Toutes les couleurs différentes, le jeu de mémoire musclée consistant à essayer d'associer chaque drapeau à son pays. Il y a la Finlande et il y a la Nouvelle-Zélande. Le sourire borgne de la Mauritanie. Et j'ai alors réalisé que ce n'était pas un gamin, pas n'importe lequel, mais notre enfant, à Amy et moi, qui aimerait ça. Notre enfant allongé par terre, avec une vieille encyclopédie, exactement comme moi quand j'étais petit, sauf que notre enfant ne serait pas seul. Je serais allongé à côté de lui. Je l'aiderais à développer ses dons précoces pour la vexillologie, un mot qui fait moins penser à l'étude des drapeaux qu'à celle de la vexation, ce qui aurait assez bien résumé l'attitude de mon père à mon égard, mais pas celle que j'aurais à l'égard de mon fils. Je m'imaginais Amy nous rejoindre par terre, à plat ventre, les pieds en l'air, montrant pas là-haut, le point jaune juste à gauche du centre sur le fond bleu vif. J'étais sûr que ce serait son préféré. À partir de là, ce petit garçon était devenu réel. C'était parfois une fille, mais en général un garçon. Il était inévitable. Je souffrais d'accès régulier et insistant de désir de paternité. Des mois après le mariage, j'ai connu une bouffée d'étrangeté devant notre armoire à pharmacie, fil dentaire dans la bouche. Je me suis dit, elle veut des enfants, n'est-ce pas? Je devrais lui poser la question. Bien sûr que je devrais lui poser la question. Lorsque je l'ai posée, de manière détournée, vague, elle a dit, bien sûr, un jour. Mais chaque matin, elle se penchait devant le lavabo et avalait sa pilule. Pendant 3 ans, elle a fait ça tous les matins, tandis que j'effleurais le sujet, sans oser pour autant prononcer les mots « je veux qu'on ait un enfant ». Après les licenciements, on aurait dit que c'était possible. Soudain, il y avait incontestablement un espace dans nos vies, et un jour, au petit déjeuner, Amy a levé les yeux de sa tartine et m'a dit « j'ai arrêté la pilule ». D'un seul coup. Elle est restée sans contraception pendant 3 mois et il ne s'est rien passé. Et peu après notre installation dans le Missouri, elle a pris rendez-vous pour lancer le processus de procréation assistée. Une fois qu'Amy se lançait dans un projet, elle n'aimait pas que ça traîne. « On va leur dire qu'on essaie depuis 1 an », a-t-elle dit. Bêtement, j'ai accepté. Nous nous touchions à peine à ce moment-là, mais nous pensions encore que ça avait du sens d'avoir un enfant. « Il va falloir que tu participes aussi, tu sais », a-t-elle dit sur la route de Saint-Louis. « Il va falloir que tu donnes du sperme. »« Je sais. Pourquoi tu dis ça comme ça ?»« Je pensais juste que tu serais trop fière, complexée et fière. » Je possédais certes un cocktail assez carabiné de ces 2 traits de caractère, mais à la clinique, je suis consciencieusement entré dans la petite salle étrange dédiée à la masturbation. Un endroit où des centaines d'hommes étaient entrés dans l'unique but de se secouer le poireau, de s'étrangler le borgne, de faire cracher le cyclope, de s'ébouriffer le dindon, de faire pleurer Popole, d'épouser la veuve Poignet, de se chatouiller le perroquet, de serrer la main au père de leurs enfants. Il m'arrive aussi d'utiliser l'humour comme défense. La pièce contenait un fauteuil recouvert de vinyle, une télé et une table, garnie d'un assortiment de magazines porno et une boîte de Kleenex. Les magazines dataient du début des années 1990, à en juger par la pilosité des femmes. Oui, les cheveux et le reste. Et l'action des scènes moyennement corsée. Encore un bon sujet d'article. Qui sélectionne les pornos pour les centres de fécondation in vitro? Qui juge ce qui va exciter les hommes sans être trop dégradant pour toutes les femmes à l'extérieur de la salle des branlettes, les infirmières, les médecins et les épouses pleines d'espoir et d'hormones? Je me suis rendu dans cette salle à trois occasions différentes. Ils aiment bien en avoir de rechange. Tandis qu'Amy n'a rien fait. Elle était censée commencer un traitement, mais elle ne l'a pas fait. Et le temps a passé, et elle ne l'a toujours pas fait. C'était elle qui serait enceinte et qui prêterait son corps au bébé. Donc j'ai attendu quelques mois avant d'insister. Je gardais un œil sur le flacon de cachet pour voir si leur nombre diminuait. Finalement, après quelques bières, un soir d'hiver, j'ai monté les marches crissantes du perron, retiré mes vêtements couverts d'une croûte de neige et suis allé me pelotonner à côté d'elle dans le lit, le visage près de son épaule. Je l'ai respiré, réchauffant le bout de mon nez sur sa peau. J'ai murmuré les mots « Viens, Amy, faisons-le, faisons un bébé. » Et elle a dit non. J'attendais de la nervosité, de l'appréhension, de l'inquiétude. « Nick, tu crois que je ferai une bonne mère ?» Mais je n'ai eu droit qu'à un non, sec et froid, sans appel. Rien de dramatique, pas de scène. Simplement, ce n'était plus quelque chose qui l'intéressait. Parce que j'ai réalisé que je serais coincé à faire tout le sale boulot, a-t-elle expliqué. Je me taperai les couches, les rendez-vous chez le médecin, la discipline, et toi tu passeras en coup de vent pour jouer le papa sympa. Je ferai tout le boulot pour en faire des adultes responsables, et toi tu déferais tout ça. Et il t'aimerait, et moi il me détesterait. J'ai dit à Amy que ce n'était pas vrai, mais elle ne m'a pas cru. Je lui ai dit que je n'avais pas seulement envie d'avoir un enfant, j'avais besoin d'avoir un enfant. J'avais besoin de savoir que j'étais capable d'aimer quelqu'un d'un amour inconditionnel, de donner à une petite créature le sentiment d'être toujours bienvenue et désirée, quoi qu'il arrive. Que je pouvais être un père différent du mien. Que je pouvais élever un petit garçon différent de moi. Je l'ai supplié. Amy ne s'est pas laissée émouvoir. Un an plus tard, j'ai reçu un avis par courrier. La clinique allait détruire mon sperme si nous ne donnions pas de nouvelles. J'ai laissé la lettre sur la table de la salle à manger, tel un reproche. Trois jours après, je l'ai vue dans la poubelle. Ce fut notre dernier échange sur le sujet. J'avais entre-temps commencé à fréquenter Andy depuis quelques mois, je n'avais donc pas le droit d'être choqué, mais ça n'a pas empêché ma souffrance. Et ça ne m'a pas empêché de fantasmer sur notre garçon, l'enfant que nous aurions, Amy et moi. Je m'étais attaché à lui. Le fait est que nous aurions conçu un bel enfant, tous les deux.